J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi, j'ai espéré que vous trouviez au Cassandra. Je pense qu'on peut rencontrer les deux familles de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce numéro de Parole aux auditeurs. Nous allons passer avec vous près de 60 minutes d'échange et de discussion sur des sujets qui vous captivent. Pour débuter la semaine, Parole aux auditeurs est axée sur le projet de budget de l'État pour l'exercice 2011. Le Premier ministre l'a déposé le mardi dernier au Parlement. Comme vous le savez, le budget de l'État est le miroir du fonctionnement de l'État. Il permet de connaître les priorités et l'importance que revêt chaque secteur pour le gouvernement. Pour l'exercice 2011, le projet de budget est estimé en francs congolais à 7 milliards de dollars en recettes et en dépenses. Les ressources internes contribuent à la hauteur de 4 milliards de dollars et les ressources externes à 3 milliards. Que pensez-vous de ce projet de budget? Christian Malingoumou, analyste économique et notre invité, Virola Meizi est à la réalisation de cette émission, Sylvain Makoundou à la mise en onde et à la présentation de la responsable.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Notre invité est au bout du fil. Bonjour, monsieur Christian Malingoumou. Monsieur Malingoumou?
Oui, absolument.
Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons passer près de 60 minutes pour échanger avec aussi les auditeurs sur le projet de budget de l'État exercice 2011. Il a été déposé depuis le mardi 5 octobre au Parlement. La hauteur de ce budget est de 7 milliards de dollars au taux du jour, près de 6,7 milliards de dollars au taux de l'année précédente. En francs congolais, il s'élève à 6 milliards 444 millions de francs congolais. Et le projet de budget pour l'année, bien sûr, 2011, connaît un taux d'accroissement de 14,9% par rapport à celui de l'exercice en cours. Selon le Premier ministre, ce budget est le plus important de l'histoire de la République. Et le Premier ministre va présenter ce budget, ce sera le lundi prochain, au niveau de la représentation nationale. Monsieur Malingoulou, vous êtes un analyste économique. Que pensez-vous de ce projet de budget?
Bon, tout ce que les gens peuvent d'abord comprendre est que les budgets, ce sont des gens qui sont le temps pour financer son programme national.
S'il vous plaît, est-ce que c'est possible, Christian, parce que là, la qualité de son n'est pas vraiment impeccable, on n'arrive pas à bien vous suivre. Est-ce que c'est possible que vous puissiez vous mettre à un endroit où il y a moins de bruit autour de vous, parce que là, c'est difficile de pouvoir capter ce que vous êtes en train de nous dire. Le temps de pouvoir prendre Serge de Goma, et on pourra essayer de vous rappeler pour savoir si la qualité s'est améliorée. Nous allons prendre Serge de Goma et Pompon de Lucassi.
Parole aux auditeurs.
Serge, bonjour. Oui, Serge, là je ne vous suis pas très bien, c'est comme si vous étiez sur une moto. S'il vous plaît, Serge, est-ce que vous pouvez d'abord vous arrêter pendant un moment, comme ça nous allons échanger quelques minutes et puis vous allez reprendre vos activités comme d'habitude. Serge, dites-nous, vous avez appris que le projet de budget de l'État pour l'exercice 2011 a été déposé au Parlement. Que pensez-vous de ce projet de budget de l'État qui s'élève à 7 milliards de dollars américains?
Ah oui, je me rappelle que ce soir, je parlais au Bindou à partir de Goma. Dans ma lecture, eh bien, le commun de mortel dirait bravo au gouvernement qui ne cesse de doubler le budget à chaque exercice budgétaire. Mais ma lecture personnelle est plutôt amère. Au moment où ce budget est moins que le budget d'une université comme Harvard des États-Unis, car encore une fois dans la gestion des finances publiques que je compare au corridor de la plantation des Adis, je ne pense pas que le gouvernement mexicain ait fait des pas de dans son nez, c'est insoupçonnable, qui égare à la corruption, à la corrosion de son gouvernement, des régimes financiers et établissements publics de l'État, pourris jusqu'à l'armement des seigneurs. Comment pouvez-vous vous imaginer que dans un pays réputé de scandales géologiques, les laisser sur compte, c'est-à-dire Les fonctionnaires civils, sont principalement les enseignants, marchent durant des décennies à même les coffres péniches qu'on les paye un salaire insuffisant, difficilement acquis, communément appelé CIVA, et le gouvernement ou une carence sont pris ça et là, après seulement quelques jours de gestion de la chose publique, la Respublica. C'est un paradoxe. Pour moi, comme l'a affirmé le compatriote Basile Kobo, ce budget ne peut pas répondre aux aspirations du peuple. Car nous sommes assis à une dilapidation, une plagie budgétaire au profit des dépenses courantes du gouvernement, avec des indemnités de sortie qui allaitantes au lieu de prioriser les dépenses d'investissement. Un État qui ne fait pas s'enfreindre aux normes, il a lui-même édité, c'est-à-dire un État de droit, est un État prédateur, voyou. Car si la nation condamnée se porte mieux, les juristes et l'intellectuel avertis ne peuvent que comprendre cette nation sous son angle.
S'il vous plaît, il faudrait qu'on puisse échanger. Vous avez tout d'abord reconnu qu'il y a quand même eu une hausse, mais vous pensez que ce budget n'est pas à la taille de notre pays, et surtout au regard de toutes les potentialités que regorge notre pays. Et vous avez décrié la corruption en faisant un peu allusion à l'exécution des précédents budgets. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait, Serge?
Qu'est-ce qui peut être fait? Moi, à mon avis, il faut que dans la rigueur de dépenses, que l'on puisse plus s'appesantir sur les dépenses d'investissement et non les dépenses courantes qui ne produisent rien, qu'on améliore, non pas sur papier, mais dans les faits réels, le climat des affaires, pour recharger du tout du monde. Nous allons voir.
Oui, Serge, il faudrait dire, Serge, que s'il vous plaît, Serge, c'est encore un projet de budget, donc vous souhaitez que, avant que ce budget soit adopté, pendant qu'il sera en discussion au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, qu'on puisse mettre plus, qu'on puisse allouer plus de fonds aux investissements. C'est ça, Serge, votre préoccupation.
Il faut allouer plus de fonds aux dépenses d'investissement. Et non, on vient d'amener des sorties aux dépenses courantes du gouvernement.
Merci beaucoup, Serge de Goma, pour votre intervention. Bonjour, Pompon.
Bonjour, madame Alexandra Mbaye. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Oui, vous êtes à l'ICASI. Que pensez-vous de ce projet de budget?
Merci beaucoup, madame. Bon, je suis content d'avoir, nous avons les termes qu'on utilise, qu'il faut présenter les projets, encore les projets de budget.
Mm-hmm.
Il reste à examiner et à voter. Ce que je vais dire tout simplement, c'est qu'ici, nous allons voir la volonté de l'État congolais pour la bonne amélioration de la condition de vie de presque toute la population congolaise. Nous voulons que, qu'on ne puisse pas avoir des débats inutiles, soit des antennes, même des discours. Bon, on va organiser, on va améliorer des conditions des enseignants, les élèves ne vont pas payer. Nous avons dit autrefois, quand on débattait le problème de la gratuité de l'enseignement. Voilà, au moins, madame, aujourd'hui, bon, je ne sais pas aujourd'hui, les jours on va examiner pour savoir comment voter ce budget, qu'on puisse chercher comment organiser, qu'on puisse allouer des montants nécessaires beaucoup plus en matière d'enseignement. On va pas chercher à parler de la gratuité, mais chercher comment, c'est-à-dire, qu'il y ait une bonne condition des enseignants à travers le budget, parce qu'on fait encore un projet. Mais merci, nous allons encore avoir, nous demandons, nous exhortons à tous ces députés-là et ces sénateurs, qui sont chargés de voir tout ça, d'examiner, qu'ils puissent quand même à s'exposer, exposer leur bonne volonté, et non pas à chercher avoir tout simplement leur part, avec des sommes colossales, concernant leur salaire, pour qu'ils puissent.
Oui, Pompon, vous souhaitez que ce budget puisse satisfaire les besoins, surtout de la société, surtout en appuyant dans l'éducation, mais il faudrait dire que le ministre au budget, M. Jean-Baptiste Ntaoua, qui a souligné, lorsqu'ils sont allés avec le Premier ministre pour déposer ce projet de budget, il a dit que ce budget a certaines particularités, notamment la prise en compte l'amorce de la gratuité scolaire, qui est une disposition constitutionnelle. Donc, dans ce projet de budget, il y aura assez de fonds pour pouvoir, pour que la gratuité de la scolarité, surtout à l'école primaire, comme on l'a lancé en première, deuxième, troisième primaire, puisse être effectif. Donc, des fonds pour les écoles et aussi pour les enseignants. Merci, Pompon, votre souhait et que ce budget puisse vraiment satisfaire les besoins de la population. Nous allons donner la parole à l'ingénieur Mangoyo. Il est ici à Kinshasa. Entre-temps, nous rappelons que Christian Malingoumou, qui est notre invité, est au bout du fil. On espère que la qualité de son s'est améliorée. Comme ça, pour intervenir, nous pourrons suivre correctement ce qu'il va à nous dire. Bonjour, l'ingénieur Mangoyo.
Bonjour madame, merci pour la parole.
Vous êtes ici à Kinshasa, on vous écoute. Face à ce projet de budget, que pensez-vous de ce projet de budget?
Merci madame, vous savez qu'un budget, c'est l'expression du programme d'action du gouvernement. Mm-hmm. C'est bien d'avoir un budget, mais madame, j'ai constaté qu'avec beaucoup d'amertume, on fait trop de bruit autour de 7 milliards. 7 milliards. Mais regardez la dimension de ce pays. 7 milliards, ça représente quoi? Et encore qu'il faut souligner que dans les 7 milliards, il y a 3 milliards qui doivent provenir des apports extérieurs. Donc, en quelque sorte, à l'intérieur, nous devons seulement mobiliser 4 milliards. Madame, voilà ce qui me choque en moi. Vous savez que ce ne sont pas les côtes à charité qui manquent dans ce pays. Moi, je suis le secteur de télécommunications. Vous savez que sur votre ciel, la licence d'exploitation des équipements de télécommunication de troisième génération se négocie autour de 10 milliards de dollars américains ou plus. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Regardez ici, aujourd'hui, avec les opérateurs privés, je parle du secteur de télécommunication, avec les opérateurs privés de télécommunication, vous voyez que le régime actuel du point de vue fiscal est déclaratif. Donc, ils peuvent déclarer ce qu'ils peuvent déclarer. L'État congolais est incapable d'opposer quoi que ce soit du point de vue des statistiques à toutes ces données-là. Alors, ils n'arrivent pas à organiser l'opérateur public qui est l'OCPT. Vous savez que dans le cas des 5 chantiers, l'OCPT a acquis des équipements modernes de télécommunication. Ces équipements auront comme tâche de téléconnecter tous les opérateurs privés. Et il y a aussi les abonnés qui sont les servir. Le CPT a déployé sur l'ensemble de Kinshasa ici plus de 40 antennes, plus de 40 antennes pour faire le cellulaire comme les autres opérateurs. Mais comment nous parlons, l'opérateur public au CPT, ça fait bientôt 2 ans qu'il est bloqué parce que ces équipements fournis par les Chinois installés, et on a fini les essais sont concluants, ils ne sont pas opérationnels. Pourquoi? Mais c'est parce que les politiques, là-bas, ils se disputent les partenaires qui doivent nous accompagner. Les Chinois qui sont prêts avec les sections. Et là, je dis en passant, je salue les forces de l'État qui a choisi ma tête de partenaire, ma tête qui n'a posé aucune contrainte comme c'est le cas avec les Occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Ces équipements qui sont installés depuis 2 ans. Ils ne sont pas opérationnels. Pourquoi? Parce que les politiques se disputent, les partenaires qui doivent nous accompagner. Alors que les Chinois sont prêts sans contrepartie. Mmh. Et vous savez ce que ces équipements peuvent générer comme recette à l'état
commun. Donc, ingénieur Mangoyo, vous décriez le fait qu'il n'y ait pas une bonne politique de mobilisation de recettes, donc ce qui ne permet pas d'avoir un budget conséquent. C'est ça le problème.
Oui, justement, mais je voudrais mettre l'accent sur les télécommunications. Vous savez, à l'époque, les télécommunications venaient à seconde position avec les mines. Aujourd'hui, avec l'effondrement des mines, celui qui était deuxième, il peut devenir quoi? Souvenez-vous, madame, en pleine crise à l'époque, mais il y a eu un déferlement des opérateurs des investisseurs dans ce sens-là. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils savaient que les télécommunications, c'est quand même un domaine qui est porteur de richesse. Mais aujourd'hui, le CPT est bloqué. Nous avons écrit, moi je suis partenaire social. Je suis, en fait, nous avons écrit partout. On a fait des mémos partout pour sensibiliser et les élus du peuple, et les gouvernants, et même le peuple urbain, parce que tous les mandataires de l'État, on a placé partout, si vous observez très bien, ce sont des mandataires qui appartiennent au parti au peuple urbain. Nous avons sensibilisé, nous sommes bloqués.
Voilà.
Moi-même, je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de 2 ans n'arrivent pas à être. Si nous voulons renforcer notre budget, nous devons aussi voir les secteurs qui sont portés de richesse. Et parmi ces secteurs, il y a les télécommunications. Il faut réhabiliter l'opérateur public qui est le CPT. Vous allez voir.
Si vous voulez, ingénieur Mambo, il faudrait dire aussi que ce projet de budget sera en discussion au niveau du Parlement. C'est encore une occasion pour vous pour pouvoir demander à vos représentants que vous avez élus en 2006 de pouvoir poser des questions au Premier ministre pour savoir, mais qu'en est-il des ressources qu'on peut tirer à partir de la télécommunication. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, pour votre intervention. Bonjour, Steve.
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
Steve, on vous écoute. Que pensez-vous de ce projet de budget 2011?
Oui, le projet de budget, moi, c'est toujours un problème très sérieux de ce congrès. Donc, c'est quoi? Oui, les montages, c'est parce qu'il y a, c'est vraiment parce que ça ne passe complètement rien par rapport à la misère de ce pays. Moi, vraiment, ce que je peux donner dans ton proposition, c'est quoi? C'est-à-dire que, même avec cette réservation, plus de pourcentage sont concentrés seulement au fonctionnement du gouvernement, les salaires des députés, les salaires des salaires publics, même on ne les utilise pas. Donc, tous ces députés sont consommés normalement en majorité par les gouvernements. C'est pas le problème. On ne tient pas compte de notre pays. Mais comme la justice, par exemple, la race, la justice, c'est combien de pourcentages sont députés? Mais on va me dire non, ceci, on va me dire non, autant à la présidence, je vois que je
peux dire non, donc, c'est encore un projet de budget. À votre avis, quels sont les secteurs qui sont prioritaires?
Moi, le secteur qui est prioritaire, d'abord, premièrement, ce sont les secteurs qui doivent seulement donner la recette. Pour que les cités puissent, par exemple, puissent agrandir du bas d'âge dans les prochaines. Il y a quand même le secteur de la justice. Ça, c'est parmi les trois, les secteurs normalement qui sont prioritaires. Ce n'est pas d'abord le secteur parce que nous devons d'abord avoir de l'argent pour soutenir les secteurs. Est-ce que ce sont des secteurs? Par exemple, pour la relance de la grande société congolaise de la République. Parce que là, va aussi aider les gens même, au final, l'emploi, au final, beaucoup de choses. On vous a vu que la mitad, si on a connu, on vous a dit que c'était 500 millions de dollars. Mais tout cela, il faut aussi réhabiliter les usines, réhabiliter les grandes entreprises que les gens maintenant, qui travaillent. Et cela, ça ne donne pas vraiment faire des bonnes choses pour le peuple congolais. Mais
donc, vous rejoignez Serge de Goma qui pense qu'il faudrait vraiment mettre alloué beaucoup de fonds pour le secteur de l'investissement. Merci beaucoup, Steve de Bounia. Vous allez ajouter quelque chose en conclusion parce qu'il y a d'autres auditeurs qui voudraient aussi intervenir.
Ok, merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup.
Oui. Bon, et juste là, Steve vient de déconnecter, mais merci quand même pour son intervention parce que de Bounia sur 104.9 MHz.
Parole aux auditeurs.
Nous espérons que ce soit la ligne meilleure avec notre invité, M. Christian Malingumu. Vous êtes là, j'espère.
Oui, je suis là.
La ligne s'est tout petit peu améliorée, mais quand même, nous allons essayer de voir si vous serez, ça sera une bonne ligne, bonne qualité, comme ça nous pourrons échanger. Tout cela, je voulais tout simplement poser la question que je pose à tous les autres auditeurs. Vous, en tant qu'économiste, que pensez-vous de ce projet de budget avant que vous puissiez réagir aux avis de nos auditeurs? Quelle est votre vision à vous dès qu'on a publié le fait que ce projet de budget atteint pour l'instant les 7 milliards?
Merci beaucoup pour la question. Une chose que nous devons tous comprendre, nous devons d'abord reconnaître les efforts que le gouvernement est en train de faire, puisque si nous le recevons à l'année 2010, le budget était de moins de 2 milliards de dollars. Et qu'en 2011, le projet qu'on vient de nous présenter soit de 7 milliards, nous devons quand même apprécier ces efforts-là. Donc, il ne suffit pas seulement de pouvoir se lancer dans les critiques, mais les critiques ne peuvent avoir de sens que lorsqu'elles sont constructives. Et pour l'être, il faut d'abord qu'on apprenne et qu'on comprenne. Donc, nous devons d'abord reconnaître cet effort-là. Le fait de passer 2 milliards de dollars à 7 milliards, c'est quand même un effort louable de la part du gouvernement. Hormis les autres critiques que nous pourrons...
Mais souvent, dites-nous, sur base de quoi est élaboré le budget?
Le budget est élaboré sur base de plusieurs éléments. D'abord, on prend en compte les différentes projections qu'on fait par secteur. Donc, on voit comment les différents secteurs économiques se sont comportés. Et sur base de cette évolution-là passée, on essaie de prévoir comment ça pourra se faire, comment ce secteur pourra évaluer pour que l'État puisse arriver à prélever ses impôts et taxes pour pouvoir financer son budget. Donc, le premier élément qu'on tient en compte dans l'élaboration du budget, c'est d'abord le comportement, non seulement des différents secteurs, mais aussi le comportement de la conjoncture internationale. Sur base de tous ces éléments-là, on arrive à faire des prévisions pour déterminer quelles sont les recettes que le gouvernement peut espérer mobiliser par rapport à chaque secteur d'activité économique.
Nous passons directement à votre réaction par rapport aux avis des auditeurs. Par exemple, l'ingénieur Mangolo qui pense qu'il n'y a pas une bonne mobilisation des ressources, il a même donné un exemple de la télécommunication, le secteur de la télécommunication, d'où on peut tirer plusieurs ressources, mais malheureusement, on n'arrive pas à les avoir. À votre avis, le fait qu'on s'arrête à 7 milliards, est-ce que ce n'est pas le fait que le gouvernement ne pense pas qu'il peut mobiliser plus de ressources que ça? Parce que, en gros, les auditeurs ont pensé que ce budget n'est pas à la hauteur du pays, au regard des potentialités du pays.
Bon, d'un côté, les auditeurs ont une part raison, en ce sens que, sur le plan, par exemple, le secteur des télécommunications, comme il a été démontré par l'ingénieur, c'est vrai que tout ce secteur, ces ressources peuvent être mobilisées abondamment. Mais, comme lui-même l'a dit, la première faiblesse qui est décriée, c'est d'abord la faiblesse au niveau de notre système fiscal. Notre système fiscal qui est basé sur un système déclaratif. Donc, c'est, disons, le responsable ou bien le contribuable lui-même qui est bien déclaré au fait de fisc, ce qu'il pense avoir utilisé. Et pas de cela, on arrive à pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il doit payer à l'État. Donc, à mon avis, cette remarque de l'ingénieur est pertinente, en ce sens que, le fait que le système fiscal soit présent beaucoup de faiblesses, ces faiblesses sont liées à la culture fiscale des contribuables. On ne peut pas souhaiter avoir un système déclaratif dans un pays où le comportement des contribuables n'est pas du tout louable.
Et s'il était question, par exemple, de changer cette manière, la fiscalité, ça revient encore au Parlement de pouvoir faire des propositions et voter des lois par rapport à ce changement. S'il pensait que pour avoir le plus de ressources, pour avoir un budget conséquent, il revenait de changer certaines choses.
Exactement. C'est vrai que le Parlement est en train d'examiner la loi sur la TVA, comme nous le savons. Ça, c'est quand même une première avancée que nous pouvons indiquer. Je pense que ce système-là pourra permettre à ce qu'on améliore, un temps soit peu notre système fiscal. Mais la réforme doit être profonde, on ne doit pas se limiter à des réformes partielles.
Vous pouvez faire allusion à une deuxième faiblesse, parce que la première, vous avez cité la fiscalité, mais la seconde faiblesse.
Non, la seconde faiblesse est liée au fait que nous avons notre système fiscal, si je peux dire, notre système fiscal est beaucoup plus lié sur les ressources de la porte. Donc, je peux expliquer la différence simplement, les ressources liées à la douane. Or, nous savons que lorsque, au niveau international, la conjoncture n'est pas bonne, de suite, les implications de cette conjoncture se remarquent au niveau de notre économie. Ce qui fait que lorsqu'il y a des problèmes au niveau international, même la capacité de mobilisation des ressources au niveau interne est affectée. Alors, à mon avis, je pense que la meilleure solution, on ne doit pas seulement compter sur des ressources de la sorte, comme je l'ai dit tantôt. Il faudrait qu'on voit dans quelle mesure nous pouvons beaucoup plus diversifier les activités au plan, les activités économiques au plan interne, pour pouvoir avoir, une assiette assez large sur base de laquelle le gouvernement peut utiliser ses ressources plutôt que de se tourner sur l'extérieur. Nous voyons par exemple, lorsqu'on remarque la configuration de notre budget actuel, nous voyons que sur le plan extérieur, le gouvernement à 3 milliards de dollars de l'extérieur. Mmh. Or, nous savons que la capacité de décaissement de l'extérieur n'est pas du tout appréciable. On peut vous promettre 3 milliards, mais lorsque vous voyez la mobilisation, peut-être, on pourra décaisser jusqu'à 40%, ce qui fait que toutes les prévisions que le gouvernement aura faites pour son action, ces actions ne seront pas financées puisque par manque de ressources.
À ce moment-là, on tombe dans un déficit budgétaire. Nous vous gardons en ligne, M. Christian Malingoumou. Avec vous, nous allons échanger sur tout ce qui va être dit au cours de cette émission. Et surtout, on va essayer encore une fois de vous recontacter parce qu'on a l'impression que la qualité n'est pas toujours bonne. La qualité, on va essayer de pouvoir le rappeler comme le signe l'icône d'Aka et Pierrot et la musique sont de l'autre côté. Nous allons écouter Arsène de Bukavu et Augustin de Boutembo.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène. Arsène?
Ok, bonjour. C'est Arsène Elie Longuel. Hein? J'appelle depuis la ville de Bukavu. Je suis responsable de la FPL de TV. Donc moi, j'attends l'augmentation des budgets de notre gouvernement. Bon, on voit ça et on l'attend, c'est bon, mais malheureusement, nous ne voyons souvent aucune exécution ou aucune amélioration à propos de ce budget-là. Le budget était à 6 milliards, dans les années passées, il était à 4 milliards, mais on ne montrait pas à la population aucune exécution. Où on ne montrait pas la population si ce budget-là sert à quoi, ça a effectué quoi. Mais si on va pour vous montrer, c'était les 5 chantiers, l'amélioration des coûts de vie des peuples congolais avec les infrastructures des hôpitaux, les écoles, la route, la réhabilitation des corps, mais nous ne voyons pas aucune chose. Le budget-là, nous voyons que c'est uniquement pour l'amélioration de la vie de nos ministres. Et de nos députés, parce que nous ne voyons aucune amélioration. Regardez le cas de Sangui. Quand il y a eu les incidents malheureux qui ont été venus au cas de Sangui, la population, jusque-là, c'est toujours dans les détresses. Il n'y a pas aucun appui du gouvernement. Il n'y a pas aucun appui pour ces gens-là qui ont perdu leur vie. Les effets des autres ont donné les gens de Sangui. Le gouvernement lui-même a détourné ça. On faisait l'opération de retour. Donc, on envoyait les gens avec des aides à Sangui et tous ces aides-là, on les découvre encore et arrivé dans les maisons de nos ministres. Si on ne pouvait pas citer leur nom au niveau des radios au papy. Mais ça, c'est le point. Bon, le budget est là. Mais c'est uniquement pour l'amélioration de la vie de nos ministres. Pas si pour l'amélioration de la vie de...
S'il vous plaît, Arsène, vous intervenez à partir de Bukavu et nous parlons de ce projet de budget. Vous avez constaté à votre niveau que les anciens budgets, peut-être ne sont pas, n'ont pas pu vous satisfaire à vos besoins. Et maintenant que ce projet de budget sera en discussion au niveau du Parlement, à votre avis, quelles sont les rubriques qui doivent vraiment être prises en compte pour que vous, en tant que population, vous, en tant qu'habitant de Bukavu, vous puissiez ressentir qu'effectivement, ce budget à quelque chose apporte un plus dans votre vie.
Ok, j'ai suivi, évidemment je suis pour à la radio Capi, parce que la radio Capi se pose souvent démontrer l'opinion de quelques Congolais. Mm-hmm. Dans la vie de Bukavu, ça fait des semaines qu'il n'y a pas de l'eau, ça c'est une information. L'hôpital général de Bukavu et d'autres hôpitaux qui sont appuyés par des zones de santé. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas même de l'eau. Collègues fragiles, les élèves souvent sont chassés à l'école en cause des parents d'eau. Donc, à mon avis, si c'est clair et évident que ça sera pour l'avantage de peuple congolais avec la construction des ponts, Port-Elina, à Moinga, le Port-Elina était endommagé, jusque-là, il n'y a pas aucune réhabilitation. Donc, vous présentez le budget uniquement pour la vie de nos ministres, pas pour la vie des peuples congolais. Donc, même si je pouvais donner mon avis, je ne sais pas, je ne sais pas si cet avis-là sera pris en compte en donnant l'accès important au peuple congolais. Donc, si c'est clair que le budget vient de sortir pour répondre à la vie des peuples congolais avec la misère, le paiement des enseignants, les professeurs à l'université ou le paiement, soit c'est des biens militaires qui sont retraités, c'est donc.
Merci Arsène. Donc, vous voulez que ce projet de budget puisse prendre en compte l'éducation, la santé aussi, la protection sociale. Merci Arsène de Bukavu pour votre intervention. Bonjour Augustin. Augustin? Nous avons perdu Augustin, il nous appelait à partir de Boutembo. Boutembo, c'est dans le nord Kivu. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse nous dire ce que lui pense de ce projet de budget. Je rappelle qu'à Boutembo, vous êtes à 92.9 MHz.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des maladies d'aigle. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi de promeneurs. Découverte de lundi à vendredi à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec une copine.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Nous connaissons encore quelques difficultés pour pouvoir contacter, pour pouvoir rappeler nos auditeurs qui veulent participer à cette émission. Mais quand même, pour vous poursuivre, quand même pouvoir vous inscrire, nous allons faire un effort de pouvoir vous rappeler le numéro, c'est le 081 690 63 15, le 081 690 63 15. Nous avons perdu notre invité, mais quand même nous sommes en train de faire un effort pour qu'on puisse le récupérer. Comme ça nous allons poursuivre cette émission. Mais entre temps nous avons Henri qui nous appelle à partir d'ici de Kinshasa. Bonjour Henri.
Bonjour madame.
Puis encore une fois Henri, c'est pas, vous êtes un habitué de parole aux auditeurs. Et aujourd'hui la question, que pensez-vous de ce projet de budget 2011?
Voilà madame, la question est bien posée. De ma part, je prends en considération deux aspects principaux. D'abord l'aspect juridique. Le budget est une loi, c'est une loi financière. Comme toute loi, elle doit être appliquée. Quand elle n'est pas appliquée, on doit sanctionner ceux qui ne l'appliquent pas ou qui l'appliquent mal. C'est pour cela que le gouvernement, à la fin de chaque exercice budgétaire, doit remettre un rapport au Parlement pour que le Parlement puisse juger, voir si le budget a été réellement appliqué. Alors, dans les cas contraires, le gouvernement doit justifier. C'est pour éviter que les ministres confondent l'argent que leur octroie le budget avec leur argent de leur maison. Vous voyez? Or, ici chez nous, cela ne se fait pas. Ça, c'est vrai. De deux, les budgets, c'est quoi? Ce sont des prévisions de dépenses fondées sur des prévisions de recettes. Alors moi, je trouve qu'il n'est pas tout à fait réaliste. Aujourd'hui, il n'est pas réaliste qu'un pays puisse fonder ses prévisions de dépenses en comptant sur les aides à 50% qu'on doit lui donner par d'autres pays qui ont aussi leur budget. Ça, c'est un. De deux, les entreprises qui génèrent les recettes doivent perfectionner leur mode de gestion. On doit accompagner quotidiennement leur mode de gestion, leur mode de gestion financière. Or, vous savez qu'ici, nos entreprises, on a demandé à nos entreprises de donner des rapports de leur gestion depuis le mois d'avril. Il n'y a aucune entreprise jusque-là qui a su donner ces rapports-là. Et les gens ne sont pas sanctionnés. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Parce que ces gens-là forcent tous les calculs du gouvernement en ce qui concerne les dépenses annuelles. Eh bien, ces gens-là doivent être sanctionnés, ou bien ils sont techniciens, ils restent là où ils doivent rester, ou bien ils ne sont pas, par leur propre conscience, ils doivent démissionner, ou s'ils ne démissionnent pas, on doit les chasser pour ne pas prendre en otage tout un peuple. Mais maintenant, le budget aujourd'hui, le président de la République parle du social. Le budget doit tenir compte de ce que le président de la République présente comme étant sa politique de social. Le social, c'est quoi? C'est-à-dire, le social, c'est beaucoup de choses là-dedans, mais dans beaucoup de choses, on doit tirer ce qui est essentiel. Pour qu'un homme vive, il doit d'abord s'alimenter. Pour qu'un homme s'alimente, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on doit tenir compte. Par exemple, comment expliquer que nous continuons à manger et du poisson importé, et de la viande importée, et de la tomate importée, tout c'est importé. Il y a des secteurs ici au gouvernement qui peuvent produire ces biens-là. Quand on les produit sur place, ce produit vont coûter moins cher, le salaire du fonctionnaire étant minime, eh bien, il pourra permettre à ce que le fonctionnaire puisse nouer les deux bouts du noix. Tous ces effets que nous consommons sont tous importés. Et que l'importation dépend d'une monnaie étrangère que nous ne contrôlons pas parce que les taxes augmentent et diminuent. Selon le coût du pétrole, selon tous les autres paramètres.
Mm-hmm.
Mais comment est-ce que nous allons contrôler, nous, notre budget? Et nous faisons confiance aux gens qui ne sont pas nos gens, qui ne méritent pas notre confiance. Nous sommes dedans à l'aide de toutes les institutions, le pétrole, de tout ça. Nous sommes dedans à l'aide, nous ne restons que des élèves, nous ne pouvons pas devenir maîtres.
Mais s'il vous plaît, Henri, revenons à ce que vous avez dit, essayer de vérifier l'exécution des budgets antérieurs. À une époque, à l'Assemblée nationale, ça a provoqué un tollé, il y avait même des députés qui ont quitté même la salle parce qu'ils exigeaient en fait qu'on puisse essayer d'évaluer l'exécution des budgets antérieurs, mais le fait que cela se passe quand même à un certain moment, vous avez parlé de sanctions, donc vous pensez que ce n'est pas assez rigoureux?
Mais ça n'a jamais été rigoureux. Il y a des ministres qui, dans l'exécution de leur budget, ils ne savent même pas justifier pourquoi est-ce qu'ils vont engager telle ou telle autre dépense, et on ne les entend jamais. Hein? Mais madame, ce sont des choses qui handicapent réellement l'avancement, la marche de ce pays. Il faut qu'on se dévise. Si le président de la République parle du social, et tout à la fin de l'année, ce social est vide, les gens plutôt connaissent une misère plus noire que l'année d'avant. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire un tel budget qui a été exécuté, telles que les provisions qui ont été lancées? Il n'y en a pas. Et on nous dit toujours le budget 50% viendra de dehors. Est-ce que de dehors en question a jamais envoyé le 50%? Mais on vous trompe une fois, ça va, mais que vous trompez deux fois, vous devenez des idiots.
Alors que pensez-vous pour le projet de budget 2011?
Bon, mais je pense que monsieur le Premier ministre a présenté le budget, les parlementaires vont essayer de l'analyser, mais il y a un problème, c'est une loi. C'est une loi, quand on parle de loi, la rigueur de la loi, on doit l'exécuter. Et si on ne l'exécute pas, on doit s'expliquer. Soit on ne l'applique pas, on ne s'explique pas, il y a un laisser-aller, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fera jamais marcher le pays. Parce qu'alors, à ce moment-là, on confond les choses.
Merci beaucoup, Henri, pour votre intervention sur les antennes de Radio Capi concernant le projet de budget 2011. Vous avez fait vos avis, vous avez donné vos avis aussi, expliquer quels sont les problèmes qu'on rencontre lorsque souvent les budgets ne sont pas exécutés. Ce sera difficile pour la population de pouvoir ressentir cela. Merci, Henri, pour votre intervention à partir de Kinshasa. Bonjour, Godefroy.
Bonjour madame, bonjour à la radio.
Si vous êtes à Goma, on vous écoute. Que pensez-vous de ce projet de budget?
Oh, c'est bien sûr madame, mais je vais dessus, monsieur l'invité. Je vais quand même signaler quelque chose parce que ce que je vais dire ici est déjà dit par mes prédécesseurs.
Mm-hmm.
Mais quand même, j'ai un grand réveil de la part de mes dirigeants congolais. Madame, je vous dis, ce budget qui est dénoncé, il n'y a que le dirigeant congolais qui apprécie ce budget. Mais la population ne l'apprécie pas.
Et vous êtes quand même représenté, vous êtes représenté par les députés, donc ce sera présenté au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Vous avez des représentants. Quand vous dites que ce n'est pas apprécié, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer?
Madame, si je vous dis que le budget ne sera pas apprécié par les Congolais, parce que je sais que dès que le budget est annoncé, le budget ne sera pas seulement adopté par nos représentants. Nos représentants, madame, n'agissent plus à notre nom. Madame, nous avons un grand réseau de la part de nos représentants. Dans la mesure où, chaque fois, ils adoptent le budget, mais qui n'ont jamais répondu aux aspirations du Congolais. Mais, madame, je dois être très concis, très bref. Je veux que j'ai quelque chose de la part de nos dirigeants. Nos dirigeants, moi, je les invite d'être, de devenir normaux. Parce que les Congos, là, ne manquent pas de richesse pour accroître le budget congolais. Mais le budget congolais est arrivé à 50 milliards. L'Angola qui a fait 35 milliards de dollars. Mais qui n'a pas de ressources plus que les Congos, madame. Demain, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi les Congos ne parviennent pas à accroître son budget? Pourquoi répondre aux aspirations des populations congolaises? Madame, je vous dis que bien que Modilia dise qu'ils ont fourni les fonds, mais le budget va répondre seulement à leurs aspirations. Et nos aspirations de nous qui sommes pas faites, madame. Les marques, ils nous déjà nous déçoivent.
Oui, donc vous ne croyez pas, vous ne croyez pas en ce budget, en ce projet de budget 2011, parce que Godefroy de Goma, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
J'espère cette fois-là que la ligne est meilleure avec notre invité Christian Malingoumou. Bonjour encore une fois. Le temps de tester pour voir si c'est une bonne qualité cette fois-là.
Bonjour.
Vous avez peut-être suivi nos auditeurs qui reviennent sur le fait que le budget ne répond pas nécessairement, ne répond pas à leurs attentes, surtout sur le plan social. À votre avis, que faut-il pour avoir un budget qui puisse satisfaire, c'est vrai dire satisfaire d'une façon générale, au moins les besoins primaires des populations?
Bon, maintenant, cela dépend de la politique salariale que le gouvernement va mettre en place. Et cette politique salariale qui devra être intégrée dans les prévisions budgétaires qu'on va citer au Parlement.
Là encore, là, on a vraiment des problèmes. Et dernièrement, il y a eu cette nouvelle, la RDC qui a atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, ce qui veut dire que la RDC ne va plus commencer à verser autant d'argent pour payer sa dette extérieure. Selon le ministère des budgets, aussi des finances, cela représente presque 23% du budget. Ça signifie que ces fonds pourront être alloués à autre chose. Est-ce que vous pensez que même si c'est 23% du budget qui ne sera plus envoyé ou bien payé pour la dette extérieure, cela pourra-t-il permettre à la RDC de pouvoir, à un certain niveau, satisfaire certains besoins de la population?
Bon, tout dépend de priorités du gouvernement. C'est le gouvernement qui détermine quelles sont ses priorités. Et ces priorités se voient à travers le budget. Donc, si le gouvernement pense sérieusement que 23% peut être affecté à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, à ce moment-là, on pourra le remarquer dans le budget. Mais si, par exemple, le gouvernement trouve que ce priorité serait ailleurs, même si le budget atteignait 50 milliards, je ne pense pas que la situation des citoyens sera améliorée si et seulement si le gouvernement ne considère ça comme sa priorité.
Là encore une fois, on n'arrive pas très bien à vous suivre, mais ce qu'on a pu retenir, c'est que vous pensez que ça dépend réellement des priorités du gouvernement, mais quand même 7 milliards pour 60 millions d'habitants, c'est quand même pas assez considérable. Nous allons poursuivre, essayer de pouvoir vous recontacter, peut-être que cette fois-là ça va s'améliorer, mais si ça ne va pas, vraiment nous avons fait tout ce que nous pouvons pour vous avoir comme invité, mais là on a vraiment deux problèmes de liaison avec vous.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons le député Okunji, Emery Okunji, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour madame.
Aujourd'hui nous parlons du budget, du projet de budget 2011 et vous êtes député national, donc vous représentez une circonscription électorale de la RDC. Mais vous allez voter ce budget, vous avez suivi déjà, j'espère, des auditeurs qui pensent que ce budget ne répond pas sur le plan social à leurs attentes. Et vous, en tant que représentant du peuple, que pensez-vous de ce budget?
Je tiens d'abord à saluer tous vos auditeurs, madame, qui interviennent de manière très pertinente à la gestion, aux affaires qui concernent la République démocratique du Congo. Je vous remercie vous-même aussi de m'avoir accordé la parole. D'entrée de jeu, je vous dis que les auditeurs qui sont intervenus ont raison, ont totalement raison, madame. Ça fait depuis plusieurs années que nous votons le budget, qu'on nous chante les mêmes chansons, qu'on nous donne de bonnes intentions, mais le constat est amer sur le terrain. Depuis 3 ans, à chaque examen budgétaire, madame, nous dégageons ce que l'on appelle des recettes additionnelles au niveau de l'Assemblée nationale, je parle. Hein. et ces recettes additionnelles ont toujours été affectées de manière prioritaire au volet social, c'est-à-dire salaire des enseignants, des militaires, des policiers, des fonctionnaires de l'État, des médecins, etc. Mais le constat est amer lorsque l'on voit que ces recettes additionnelles dégagées et affectées de manière prioritaire au volet social n'ont jamais été exécutées telles que votées par l'Assemblée nationale. Il y a un problème, madame. L'auditeur l'a bien souligné. Le budget, une fois voté par le Parlement, c'est une loi. C'est la loi budgétaire. Et elle doit être scrupuleusement respectée. Lorsque l'on ne respecte pas cette loi, eh bien, on subit la rigueur de la loi. Je crois que nous sommes arrivés à ce point et je tiens à sensibiliser tous les honorables députés d'être à la hauteur de notre tâche, c'est-à-dire de tenir compte des aspirations profondes du peuple qui nous a mandatés.
Mais parce qu'il revient à vous, en fait, de contrôler le gouvernement. Il y a même un auditeur qui pense qu'il n'y a pas vraiment de sanctions.
Ben effectivement, l'auditeur a raison. L'auditeur a raison, je l'ai souligné, que le budget, c'est une loi. Lorsque l'on n'applique pas la loi telle que votée, eh ben, on mérite des sanctions. C'est pour cette raison que j'ai dit que j'espère que cette fois-ci, nous n'allons pas nous cramponner dans nos carcans de coloration politique pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Le budget est de 7 milliards. Je suis tout à fait d'accord avec les auditeurs qui disent que ce budget ne répondra pas aux besoins des Congolais, d'autant plus que sur les 7 milliards de dollars américains, 4 seulement sont des ressources, 7 milliards sont des ressources propres, c'est-à-dire les ressources dont nous sommes sûrs. Mais les 3 milliards autres, c'est les partenaires extérieurs. Cela dépendra de leur volonté, madame.
Mais s'il vous plaît, et à votre avis, au regard bien sûr des besoins de la population, au regard des potentialités de la RDC, qu'est-ce qui peut être fait pour accroître le budget, comme ça, au moins du côté mobilisation des ressources, que cela soit fait, et que voir la chaîne de dépenses, ça c'est autre chose, c'est au Parlement, bien sûr, de pouvoir vérifier pour le peuple. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour une meilleure mobilisation des recettes?
Madame, c'est simple. D'abord, il faut avoir une vision sur cette République. Et de deux, il faut lutter contre l'impunité, contre les anti-valeurs qui rongent les finances publiques, madame. Lutter contre les réseaux mafieux qui saignent à bon les finances publiques. Les régies financières sont là, ils sont en train de mobiliser des recettes. Mais ces recettes vont beaucoup plus dans les poches des gens qu'au trésor public, madame.
Merci beaucoup, monsieur le député Okunji, pour votre intervention à cette émission. Le temps qu'on puisse aussi écouter Ange de Mbandaka et Dieudonné de Kananga. Nous allons lire le mail de Jérémias qui nous a écrit à partir de l'Angola, à Luanda. Le projet de budget congolais est bel et bien déposé au Parlement. C'est bon, il est évalué à plus de 7 milliards de dollars. Très bien. Est-ce que par rapport au budget de l'année passée, ont-ils vraiment pensé au social du peuple ou bien ils ont juste tablé sur leur salaire et leur social à eux? Donc voilà la préoccupation de Jérémy. Il espère qu'au cours de ce budget, qu'avec ce budget 2011, que cela puisse aider plus le social. Et il y a aussi Mangambu Makoso, Jean des Dieux, qui nous écrit à partir de la Belgique. Il écrit ceci: en prenant tellement de temps pour notre pays, c'est une honte. Le pays ne sait pas mobiliser les recettes, les peut mobiliser entre dans les poches des uns et des autres. Et il y a la population qui en souffre. Pourquoi l'Angola, qui vient de sortir de la guerre, comme nous, a un budget 4 fois plus grand que la RDC? Si nous attendons ce budget, il voudrait que ce budget soit social. Voilà la préoccupation de Mangabu Makoso, Jean des Dieux, qui nous a écrit à partir de la Belgique. Nous allons suivre Ange de Mbandaka, Dieudonné de Kananga et Simon de Matadi. Bonjour Ange.
Bonjour Marie-Chantal.
On vous écoute. Que représente pour vous le budget, le projet du budget 2011?
Bon, il faut premièrement dire que c'est vrai qu'il y a un accroissement budgétaire dans notre pays, mais
ce budget ne représente vraiment absolument rien lorsqu'on regarde la grandeur de notre pays, la taille de notre pays qui a une forme, qui a la forme d'un continent, c'est absolument rien. Et bon, le problème aussi, ça ne se trouve pas au niveau des chiffres, parce que les chiffres ne représentent absolument rien. Si on se base, là, je dis que quand on n'a pas ce qu'on cherche, on se contente de ce qu'on a. Contentons-nous, premièrement, de 7 milliards que propose le gouvernement congolais. Le problème, ça se trouve au niveau des chiffres, mais aussi au niveau des retombées de ces 7 milliards. Est-ce que ces 7 milliards va servir le peuple congolais? Est-ce que ça va changer les sociétés des Congolais? C'est ça vraiment la question que nous posons.
Merci,
nous avons peur que ce qu'il y a, c'est le plus sécurité seulement à Kinshasa aux institutions étatiques, quoi, c'est-à-dire le gouvernement et l'ensemble, tout l'Assemblée nationale. Parce que la fois que nous avons suivi, je ne sais pas quel institut a fait des critiques aux deux présidents, aux présidents des deux chambres des parlements. Donc, je regarde, donc, tellement leur cabinet, c'est vrai. Donc, leur cabinet consomme presque tout ce que les gouvernements
proposent. S'il vous plaît, nous n'allons pas entrer dans des considérations, surtout lorsque nous n'avons pas assez de preuves. Mais tout ce que je peux vous dire, tout ce que nous avons retenu de vous, c'est que vous voulez que le budget soit à la taille vraiment de notre pays, mais aussi qu'il puisse répondre aux attentes de la population. Mais n'oublions pas que le budget est voté au Parlement, mais exécuté par le gouvernement. Merci beaucoup, Ange de Mbandaka, sans oublier que le Parlement a bien sûr le devoir de contrôle du gouvernement. Nous allons donner la parole à Dieudonné de Kananga. Bonjour, Dieudonné.
Ah oui, bonjour, madame Chantal.
Hein. Vous n'avez pas beaucoup de temps, ni une minute. Que pensez-vous de ce projet de budget 2011?
Effectivement, madame, je m'appelle Dieudonné Kibambe, je suis étudiant à l'Université autonome de Kassai à Kananga. Je voulais tout de suite intervenir, vraiment, c'est un budget macabre. Hein. Vraiment, ça fait honte, un grand pays comme la RDC ici. Bon, je ne sais pas. D'abord, ce budget a été voté par rapport à la consommation et par rapport à la production.
C'est un projet de budget qui n'a pas encore été discuté. Il vient à peine d'être déposé au niveau du Parlement. Et la discussion ou la présentation d'abord aura lieu le lundi prochain. Donc, nous parlons que d'un projet de budget. Peut-être, quels sont les secteurs que vous pensez qui doivent être prioritaires dans ce projet de budget?
Madame, juste, j'ai suivi l'émission dès le début là. Je prends d'abord une position contraire par rapport à un auditeur qui a dit non, c'est quand même un budget apprécié. Bon, alors, justement, je prends une position contraire. D'abord, nous voyons d'abord les années de notre pays. La République comme l'Angola ici, un petit pays, mais qui a un budget consistant, 50 000 dollars américains. Mais on dit d'abord l'avantage du pays comme la RDC ici, qui a assisté combien de, je ne sais pas combien de tribus, mais on vote un budget de 7 000 dollars. Vraiment, c'est un budget vraiment éhonté. Si on parvenait à voter ce budget, c'est juste pour cela ronfler le poche des parlementaires et des politiciens congolais là. Vraiment, dire que ces deux vont se faire la chambre de la population congolaise, vraiment, je ne le crois pas.
S'il vous plaît, Dieudonné, merci d'être intervenu. Le temps qu'on puisse aussi donner à Simon de Matadi, le temps de pouvoir s'exprimer parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Bonjour, Simon.
Bonjour, madame.
Vous êtes à Matadi, on vous écoute.
Oui, je suis donc Simon Siloulou, le secrétaire provincial du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées Sénécat. En fait, pour nous, pour être bref, nous sommes dans une situation de la mort intellectuelle de la nation en négligeant l'enseignement et l'enseignant. Nous proposons des solutions au Premier ministre, s'il a vraiment été notre ancien élève, et tous ceux qui travaillent avec eux de penser aux enseignants, de telle en sorte que si on aide l'enseignant, on aide maman qui va au champ, on aide les magistrats, on aide les policiers, parce que l'enseignement est en train de renfler presque tous les salaires qu'il donne aux gens. puisqu'ils doivent prendre en charge ces enseignants qui n'ont presque rien. Donc, si les budgets pouvaient être affectés à cette cause, ça serait une bonne chose. Bébé, les secrétaires généraux, ils ont déjà le deuxième palier des maudits. Leurs enseignants qui les ont formés pour être ce qu'ils sont, ils sont encore à 30 000. Depuis 2006, madame, le budget a toujours augmenté, mais l'enseignant ne sent rien. Depuis 2006, on a ajouté ceci, on a ajouté cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2010 et on a les projets de budget 2011. L'enseignant n'a rien senti pendant toutes ces augmentations et tous les budgets, curieusement, sont qualifiés de social. Alors, l'enseignant dans tout ça ne se retrouve pas. Qui sont ces assassins de l'avenir intellectuel de cette nation?
Donc, à votre avis, vous pensez que pour le projet du budget 2011, qu'on puisse mettre un accent, qu'on puisse ajouter les salaires pour les enseignants? C'est ça votre avis?
2 milliards qui représentent presque, je crois, 27%, soit affecté à l'enseignement. Et encore dans l'enseignement, puisque ce qui fait mal, c'est quoi? On prend cet argent qu'on affecte à l'enseignement, on va gaillardiser les missions des ministres, les CCOP, c'est là où on bombe. Et l'enseignant qui travaille,
merci beaucoup, Simon, pour votre intervention à partir de Matadi au Bas-Congo. Et nous arrivons déjà à la fin de cette émission, l'émission qui était consacrée au projet de budget 2011, le projet de budget 2011 qui a été déposé le mardi dernier au Parlement par le Premier ministre, un budget de près de 7 milliards de dollars, et aussi ce budget connaît une contribution de 4 milliards de dollars pour des ressources internes et 3 milliards de dollars des ressources extérieures. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, nous disons merci à Christian Malingoumou qui était notre invité, mais malheureusement on a connu des problèmes de ligne, on n'a pas pu le joindre correctement, mais nous le remercions pour le temps qu'il nous a accordé. Merci aux auditeurs qui sont intervenus et ceux qui nous ont suivis avec attention en étant sur www.radiotapis.net.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Demain, nous allons nous retrouver pour un prochain numéro de Parole aux auditeurs et en marge de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort, célébrée le 10 octobre. Nous allons échanger sur la question « Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?» Voilà la question qui va lancer notre émission de demain. Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapitule.net. Nous disons merci à Pierre Lamé et à Nicole Ndaka, sans oublier Sylvain Matondou, qui ont permis la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Mbaye fait la présentation. À demain.